Merci tous d'être venus répondre à cette invitation de notre auteur d'aujourd'hui, Kaffa Diallo, sur son ouvrage qu'il vous présente, Sénégal-France, mémoire d'alternance inquiète. Alors, moi, je commencerai tout d'abord par le remercier parce qu'il m'a fait le grand honneur de m'inviter et d'être son modérateur, peut-être modérateur complaisant ou agressif aussi, ou peut-être pas très complice, parce que je l'ai lu avec beaucoup de passion, mais je pense que vous aussi, mais je n'en dirai pas plus, on verra à la fin. En tout cas, c'est un honneur pour moi, mais je sais pourquoi il l'a fait un peu, j'y reviendrai. Kaffa, je l'ai connu, je crois que je suis le premier Sénégalais à l'avoir rencontré quand il est arrivé, et je pense que c'est lié à cela d'ailleurs, pourquoi il m'a invité. Et puis, on a eu beaucoup à discuter ce soir-là, quand il est arrivé de Dakar. On a beaucoup discuté dans la nuit, je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas, il ne me connaissait pas. Et puis on a beaucoup discuté, et puis j'ai compris déjà beaucoup de choses de lui, et ce qui se confirme d'ailleurs aujourd'hui, hein, ça fait longtemps. Alors après, il est revenu faire son deux diplômes à l'Institut d'études politiques à Bordeaux, après avoir fait ses études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ses études de droit. Il a fait son DA de gouvernement local au CERVEL, à l'IEP, et puis un DSS de management, toujours à l'IEP de Bordeaux. Après, je ne l'ai pas beaucoup vu, hein, il s'est fondu dans la nature bordelaise, et le résultat, l'un des résultats de cette complicité, de cette fusion entre Kaffa et Bordeaux, et l'un de ces résultats est là. Alors, je vais présenter très vite, à ma façon, l'ouvrage. Qui est intitulé, donc, je le disais tout à l'heure, Sénégal, France, mémoire d'alternance inquiète. Alors, d'abord l'objet du livre, ensuite la démarche, et puis le ton, et puis finalement peut-être les différents secteurs, les sujets. Alors, l'objet du livre, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique et les Africains. Je me demande même si je dois le dire, parce que tout le monde peut se douter que Kaffa, quand il ouvre la bouche, c'est souvent sur l'Afrique. Mais en tout cas, le livre porte sur l'Afrique, comme son titre l'indique, mais aussi avec ses relations, les relations de l'Afrique avec les autres, les Africains avec les autres. Alors, c'est un objet intéressant. Et si vous voulez, je pense que d'ores et déjà, je peux dire que s'il y a un mérite, il y en a peut-être d'autres, mais s'il y a au moins un mérite qu'on peut reconnaître à Kaffa, c'est sa constance dans sa passion pour l'Afrique, dans son amour pour l'Afrique. Qui connaît Kaffa sait qu'il ne se préoccupe pratiquement que de cela, même s'il a d'autres passions, je ne les connais pas, mais il y a au moins cette chose qui est constante, et c'est un mérite chez lui, c'est qu'il parle beaucoup de l'Afrique, il parle toujours de l'Afrique, et beaucoup, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Alors, il a d'autres centres d'intérêt, c'est évident, mais son action, sa réflexion, sa pratique sont toujours tournées vers ce continent avec les problématiques qui y sont liées. Ensuite, la démarche. La démarche, elle est un peu singulière. C'est un livre un peu singulier, vous le verrez. Kaffa nous a donné un livre où chaque page est une lettre qu'il nous adresse de 2-3 pages maximum, avec des dates, au moment où il a écrit ces pages. Pas trop long, ces articles. Pas trop longue ces lettres, mais toujours dense dans le contenu. Et cela se lit aisément. Il y a une succession de petites lettres qu'il distille comme cela, avec des titres, des sujets assez particuliers. Et on dirait que l'auteur s'adresse directement à son lecteur. On dirait qu'il s'adresse à vous. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Il s'adressait à moi, il nous interpelle et il nous associe à ce qu'il pense. On ne peut pas partager, j'y reviendrai. Mais il nous associe à cela. Et puis, quelquefois, il fait comme si on était déjà son complice, alors qu'il doit savoir qu'on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais on le lit, on a l'impression qu'il veut nous associer à ses propres idées, qui sont parfois, je peux le dire, personnelles, hein, qu'on ne partage pas régulièrement. Voilà la démarche. Une démarche donc singulière, de petites lettres, sur des thèmes aussi divers les uns que les autres, et à partir desquels il pose des problématiques, il prend des positions, il interpelle, il interroge, et puis il donne des conclusions ou des solutions parfois. Et puis le ton, troisième mouvement, le ton. C'est un ton passionné, hein, à l'évidence. C'est un ton très passionné, mais aussi parfois conciliant, polémique et souvent agressif. Voilà, il est souvent agressif. Il agresse des personnages, des pays, des présidents de la République. Tenez-vous bien, les présidents de la République, ce qui est quand même assez audacieux et dangereux parce que le bâton peut revenir très dur sur lui. Mais c'est aussi son mérite de dire les choses telles qu'il les conçoit. volontairement polémique, volontairement agressif. Et bien voilà, en fait, l'essentiel de cet ouvrage. Et puis finalement, les sujets, les thèmes. Mais je ne peux pas les citer parce qu'ils sont très nombreux. Je peux dire que c'est un livre kaléidoscopique parce que tous les sujets sont abordés. Le social, le politique. Il y a un manque, quelques manques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mais grosso modo, tous les sujets sont abordés, des inondations dans les rues de Dakar jusqu'à l'université en passant par des prisonniers. Et puis quand il sort du Sénégal, il va jusqu'au Congo pour se poser des questions ou revenir en France, etc. Bref, c'est un livre que je ne pourrais résumer au-delà de ces quelques mots de présentation, sauf à vous inviter à l'acheter, pas pour le commerce, pas pour la publicité, mais parce que c'est, moi, je trouve que c'est un... À la limite, au final, c'est vraiment un livre à débat, qui suscite le débat, qui introduit des problématiques sur lesquelles on peut débattre. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais je suis entièrement d'accord sur beaucoup de choses aussi. Ce qui veut dire que le ton est posé, et il est polémique, et je crois que l'Afrique a besoin de polémique. Je disais tout ce matin à un professeur de l'université qui est parti à la retraite, qui m'a dit finalement je ne connais pas l'Afrique. Je lui dis mais est-ce que moi qui suis né là-bas et qui étudie l'Afrique depuis longtemps, est-ce que je connais l'Afrique ? L'Afrique est difficile. Il ne faut pas s'y frotter comme cela parce que c'est un continent qui nous livre ses secrets chaque jour. Et je crois que ce livre-là est un élément, une sorte de torche dans la forêt qui nous ouvre des pistes qui ne sont pas finalement résolues mais qui nous permettent de débattre. Alors, mon intervention... Mon cher Karfa va tourner autour de quelques points parce que j'étais obligé de prendre des thèmes, quelques petits thèmes, parce que je ne peux pas aborder tout ce qu'il a dit. Donc j'ai essayé de les classer à ma façon, en partant du politique, passant par le social, etc., la sécurité, l'économie. Et puis finalement, j'ai préféré finir avec ce sur quoi on l'attend souvent. Mais je l'ai mis en dernier, sur le colonialisme, la mémoire et le racisme. Je ne commencerai pas par là, parce que j'ai peur qu'il s'étale trop longtemps et qu'on ne puisse pas aborder des questions qui me semblent nouvelles par rapport à sa démarche habituelle. Alors, le politique. D'abord, il aborde le problème de l'indépendance des États, de l'indépendance de l'Afrique. Alors, moi, je suis très inquiet. Même si je le savais, j'ai l'impression que l'Afrique est loin d'être indépendante, parce que, Karfa, je te tutoie, si tu permets. Mais tu prends un discours aujourd'hui avec cette mondialisation oblige, mais vraiment, on ne parle plus de néocolonialisme, pratiquement, avec la mondialisation, pratiquement plus. Mais toi, tu reviens et tu nous poses un problème. De quoi l'Union africaine est le nom ? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'Union africaine, l'Afrique n'est pas reconnue. Et dans tes propos, tu dis que même les Africains ne veulent plus de l'Union africaine. Alors moi, je te pose la question de l'OUA à l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il rupture ou continuité ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les populations ne veulent plus de l'organisation de l'unité africaine ? Je rappelle que l'organisation de l'unité africaine est née en 1963 à Addis Abeba avec Haïlé Selassie. Et c'est là où tous les premiers chefs d'État se sont réunis avec quand même une certaine particularité, divisés en deux groupes. Le premier groupe qui dit « on finit avec le colonialisme, on balaye le droit ». Tout ce que le colonisateur nous a amené, c'est terminé, on revient sur les frontières. On va revenir sur les frontières, on jette le blanc. L'autre groupe qui dit non, attention, on ne peut pas, les frontières, si c'est une montagne, ça va, si c'est une rivière, ça a disparu depuis longtemps. Et puis, mieux vaut se fondre dans l'unité de l'universalisme, rejoindre l'ONU, etc. Finalement, c'est ce groupe qui a gagné. Et donc, il y avait un espoir des Africains de se construire, de s'émanciper. Et bien là, Karfa nous dit, mais c'est terminé, les populations n'y croient plus. Alors moi, je te demande, pourquoi tu me dis ça ?
Merci beaucoup, cher professeur, cher Balou. Ça va être très difficile hein, de répondre à cette question. Je voudrais d'abord commencer par te remercier d'avoir bien voulu présenter ce livre. Tu l'as évoqué très rapidement avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai que les circonstances de mon arrivée, de mon installation à Bordeaux, sont des circonstances qui sont liées effectivement à ta personne, à ta personnalité. Et pour moi, c'est important, même si ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles, effectivement, j'ai voulu en tout cas avoir cet honneur de t'avoir avec nous. Ce n'est pas seulement parce que tu m'as accueilli quand je suis arrivé à Bordeaux, que je ne connaissais personne. Ce n'est pas seulement parce que tu m'as ouvert ta maison, que tu m'as servi à manger, que tu m'as donné un lit pendant les premières nuits que j'ai passées dans cette ville. Ce n'est pas seulement parce que tu m'as trouvé une chambre universitaire. Ce n'est pas seulement parce que certains soirs où étudiant non boursier, je n'avais pas où manger, mais je pouvais venir chez toi et je savais que je mangerais et que je serais accueilli. Ce n'est pas parce que tu es aussi ce grand professeur dont nous sommes très fiers, celui qui, effectivement, ici à Bordeaux, nous permet aussi de penser que nos présences sont des présences essentielles et que ce sont des présences nécessaires. Ce n'est pas seulement parce que tu es un grand travailleur, puisque patiemment et à la force du poignet, tu as construit une carrière dont, je ne dis pas seulement les Sénégalais, mais les Africains sont fiers ici en France et à Bordeaux. Donc ce n'est pas pour toutes ces raisons. La raison principale pour laquelle je t'ai demandé de venir, c'est essentiellement parce que je pense que tu as une curiosité et une capacité de critique, d'analyse, dont je pense chacun devrait avoir besoin. Puisqu'au fond, lorsque nous produisons, lorsque nous écrivons, lorsque nous sommes dans cette démarche de partage, au fond, nous ne cherchons pas l'acquiescement. Je crois que ceux qui cherchent l'acquiescement, ceux qui cherchent le monologue, au fond, je pense qu'il leur manque quelque chose. Je crois que ce que nous voulons, au fond, lorsque nous produisons, c'est que nous puissions nous interroger, que nous puissions nous remettre en cause, que quelqu'un puisse avoir la curiosité de se pencher sur ce que nous écrivons et de pouvoir totalement remettre en cause les fondements de notre pensée, les fondements de notre action. Et c'est pour ça que je suis très honoré que tu sois là. Cette question sur les indépendances, c'est une vieille question, au fond. Et tu admettras, cher Badou, qu'il sera très difficile de séparer, au fond, la question des indépendances et la question de la mémoire. C'est très difficile. Je vais m'y exercer, puisque tu as délimité les questions. Je vais essayer de tenir cela. Mais c'est très difficile de parler d'indépendance sans parler de mémoire, puisqu'au fond, si on s'interroge sur l'indépendance, on s'interroge sur l'histoire et forcément, on s'interroge sur la façon dont on raconte l'histoire, sur la façon dont on se souvient. Et de quelle façon se souvient-on de ce que nous appelons indépendance, qui au fond est une décision juridique en soi, prise par un État colonisateur pour permettre à un espace colonisé pour lui permettre d'accéder à la souveraineté. Au fond, l'indépendance, c'est ça. Et cette décision juridique, elle produit bien évidemment beaucoup de conséquences. Il est très difficile pour ce qui est des indépendances africaines, et je pense que je ne pourrais pas répondre entièrement à cette question, parce qu'il y a une telle diversité dans l'Afrique et dans les conditions d'accès à l'indépendance de ces pays africains. Il y a une telle diversité qu'il est extrêmement difficile de résumer cela. Juste un petit aparté, le nom Mozambique vient de Moussa El Mbiki, qui est le nom du sultan qui dirigeait l'île du Mozambique, et que Vasco de Gama, lorsqu'il découvre cette île, il va prendre ce nom-là et il va aller au Portugal, dans la cour du roi du Portugal, il va dire « J'ai découvert le Moussa El Mbiki » et on va dire « Mozambique ». Donc vous voyez que sur la question des indépendances, comment on nomme un pays, comment un pays se dote d'une constitution, comment un pays se dote de règles qui lui permettent d'assurer un certain nombre de services publics, comme la sécurité, comme la santé, comme l'éducation, comme la diplomatie, c'est extrêmement divers et varié selon les pays et selon celui qui raconte. Selon celui qui raconte,
c'est au fond. Vrai, mais c'est vrai ce que tu dis, mais l'Union africaine, c'est l'ensemble. L'Union africaine, c'est l'ensemble de ces pays et tu dis que cette Union africaine est rejetée par les populations. Donc, moi, ma problématique là est de savoir pourquoi, au début, l'Organisation de l'Unité africaine, si vous voulez, incarnait tout un espoir de tout un continent, et puis, subitement, tu nous dis que cette Union africaine n'a plus de sens pour les populations. Alors, vers où elles vont se retourner? C'est ça que je...
Cette question...
C'est toi qui l'as dit dans une de ces pages, hein? C'est pas moi.
Je ne te contredirai pas parce que je sais que tu as l'œil très exercé, mais en réalité, ce qui se passe en Afrique, et c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai tenté dans ce livre, ce qui se passe en Afrique n'est pas si différent de ce qui se passe en Europe. Quand je titre ce livre « Sénégal-France, mémoire d'alternance inquiète », je veux dire que des deux côtés de l'Atlantique, ce sont les mêmes problématiques, les mêmes questions fondamentalement qui se posent. Et que de la même façon qu'aujourd'hui, la plupart des pays européens interrogés à l'occasion de référendums rejetteraient l'Union européenne, ben les pays africains sont dans la même situation. Même si, il me semble, que les pays africains ont plus besoin, effectivement, d'une unité politique, d'une unité économique, d'une unité sociale, d'une unité culturelle que les pays européens. C'est évident. Et c'est ça que je veux dire lorsque je dis effectivement que les populations africaines, au fond, ne se retrouvent pas. Mais elles ne se retrouvent pas également parce que dans leur quotidien, elles ont beaucoup de mal à savoir ce que c'est que l'Afrique. L'Europe, à la limite, quand on est européen, on est français, on est bordelais, bah, ne serait-ce que par rapport à notre monnaie, hein, les dépenses que nous avons tous les jours, on dépense avec une monnaie qui est une monnaie européenne. Mais en Afrique, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas une monnaie unique africaine.
Il n'y a pas d'autres références identitaires.
Il y a très peu d'autres références identitaires. Pourquoi ? Et encore une fois, la question de la mémoire et de l'histoire revient. Parce que nous sommes, on peut certes ne plus parler beaucoup de néocolonisation, encore que je crois que dans certains pays, la question se pose. Mais au fond, pourquoi on n'a pas ces référents-là ? C'est parce qu'on a des colonisateurs différents. Le Mozambique, c'est le Portugal. Vous allez au Sénégal, vous allez retrouver ce que mon père appelle le suppositoire, qui est la Gambie. Hein ? Vous allez avoir la Guinée-Bissau. Vous avez la Mauritanie. Vous avez donc comme ça des États, au fond, qui se sont constitués du fait de la volonté des Européens à la conférence de Berlin, qui se partagent le continent. Et ça crée des petites chefferies, finalement, où chacun préfère être chef chez lui, plutôt que second dans une unité plus large. Et c'est vrai, tu l'as rappelé, à l'époque des indépendances, des débats ont été extrêmement importants entre ceux comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, certains qui étaient dans une ligne, effectivement, d'une fédération africaine, effectivement, d'aller vers une unité politique de tous les pays africains. Et puis, il y en avait d'autres, comme Léopold Sédar Senghor, comme Oufouette Boigny, qui, eux, aujourd'hui, je dirais avec sagesse, quelque part, avait compris la densité de l'impact colonial dans les mentalités. Elle est extrêmement dense. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller en Gambie et dire au chef d'État gambien, ni même à un Gambien, vous allez vous fondre dans le Sénégal. Il refusera. Parce qu'il n'a pas les mêmes intérêts que les Sénégalais. Parce que fondamentalement, c'est la question de l'intérêt qui se pose. L'intérêt de conserver le pouvoir, l'intérêt, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir social. Et au fond, ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays africains ont des difficultés à aller vers une intégration plus poussée, c'est fondamentalement cette question-là, la question de l'intérêt. Moi, je pense que, bien évidemment, la mentalité coloniale s'est transmise au-delà de la couleur de peau. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la mentalité coloniale, elle n'est pas exclusivement occidentale, je veux dire blanche, européenne. C'est une mentalité que nous pouvons effectivement retrouver chez beaucoup d'Africains. Et on a l'exemple de beaucoup de dictateurs africains que nous avons connus, qui n'existent plus heureusement. Certains existent encore malheureusement. Ben, on en a beaucoup qui sont encore dans cette mentalité coloniale, c'est-à-dire dans ces pouvoirs extrêmement écrasants où on domine, où on écrase, où effectivement on s'accapare de tout, on méprise les autres peuples. Donc, ce sont ces problématiques-là qui font que la question de l'unité africaine est difficile. Et on peut en parler rapidement, mais quand on regarde la question du terrorisme et la façon dont l'Union africaine fait face au terrorisme, on y reviendra, il y a quand même des choses qui nous interrogent.
Bon, on y reviendra. Mais merci. Je continue toujours sur ce même thème, et puis c'est le dernier point que je vais relever à ce niveau-là, avant de passer à autre chose. Tu as écrit des pages intéressantes sur l'Union africaine aujourd'hui en disant mais ces pays qui veulent se retirer de la Cour pénale internationale, c'est aussi une façon de continuer à tuer. Alors la Cour pénale internationale, on va rappeler un peu de quoi il s'agit, c'est une cour qui est récente, qui est née en 2002. C'est une cour qui punit tous les auteurs de crimes, de génocide, crimes contre l'humanité, etc. Alors, par rapport à la Cour des États, qui existe depuis longtemps, la Cour internationale de justice, elle existe depuis très longtemps. Quand deux États sont en conflit, c'est cette Cour qui tranche. Mais pour une Cour qui qui condamne des hommes politiques ayant commis des crimes, c'est très récent. Et bien voilà que l'Union africaine, à un moment donné, dit, mais nous, on quitte. On va sortir de cette Cour pénale internationale parce qu'il n'y a que des chefs d'État africains qui sont condamnés, poursuivis. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi pas Bush? Pourquoi pas Sharon? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi nous sommes les seuls chefs d'État à être poursuivis? Et l'Union africaine, donc l'ensemble des pays africains, l'Union africaine a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale. Alors que ce sont les 36 premiers pays qui avaient permis à cette Cour d'exister, parce que les premiers pays qui ont signé le statut de Rome, donc de la Cour pénale internationale, c'était les pays africains qui ont permis donc qu'on atteigne le nombre de signatures lui permettant d'exister. Et d'ailleurs, le Sénégal était le premier pays à le signer. Et bien voilà, depuis quelque temps, les États africains disent « nous sortons ». Et s'ils sortent, la Cour n'existe plus. Bon, elle vient de condamner Gbagbo. Mais toi, tu lui dis « mais en fait, c'est un prétexte pour continuer à tuer ». Et tu as même pris Desmond Tutu comme exemple. Desmond Tutu dit « en fait, tous ces pays-là qui veulent quitter, en réalité, c'est pour continuer à tuer ». Alors moi, je te pose la question de savoir si quelque part aussi, ils n'ont pas raison de poser le problème qui est celui de savoir pourquoi ils sont les seuls à être poursuivis. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité quand même?
Alors, il y a sûrement une part de vérité. Il y a sûrement une part de vérité parce qu'effectivement, quand on regarde la plupart des inculpés à cette Cour pénale internationale, on se rend compte que 95% de ces inculpés sont effectivement des hommes politiques africains. Il y a une part de vérité si on voit les choses sous cet angle, disons, statistique. Par contre, quand on regarde les choses en profondeur, là, ça change quand on regarde les choses en profondeur. La Cour pénale internationale, elle a été effectivement interrogée par les chefs d'État africains. Parce que, notamment, et c'était à des occasions très précises, il y a deux chefs d'État africains qui ont fait l'objet d'une inculpation. C'était le président du Soudan, hein, à l'époque, et le président du Kenya. Donc, qui, effectivement, ont été inculpés et poursuivis. Et à la suite de ça, les chefs d'État africains, nombreux, se sont interrogés pour savoir si au fond, cette cour-là n'était pas une forme de racisme, finalement, parce que c'est ce qu'ils disent. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que le racisme est aujourd'hui, l'excuse et le prétexte que beaucoup utilisent, et notamment les chefs d'État africains, pour cacher leurs méfaits. C'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation de la mémoire, justement, lorsqu'elle sert ses intérêts. Lorsque, par exemple, des Africains sont violentés dans les rues de Barcelone, de Bordeaux ou bien de Washington, on ne voit pas de chef d'État africain s'élever pour dire que c'est une honte et défendre leurs ressortissants. Nulle part. Mais par contre, lorsqu'ils sont attaqués dans leurs intérêts, c'est-à-dire dans leur pouvoir, on les entend en ce moment-là. Alors là, ils disent qu'il y a du racisme. Moi, je pense que cette cour est une évolution. Et c'est une évolution qui me semble positive. On a vu d'ailleurs dernièrement une condamnation qui n'est pas une condamnation africaine. Je crois que c'est Radovan Karadzic qui vient d'être condamné par la Cour pénale internationale. Ce n'est pas un Africain que je sache. Ce n'est pas un chef d'État africain. C'est un blanc, bien blanc, qui a été condamné par la Cour pénale internationale. Et du coup, je pense, et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des éditorialistes qui avaient repris ça, que cet argument de dire que les chefs d'État africains sont visés parce qu'ils sont noirs est un argument qui ne tient pas. Et quand je cite Desmond Tutu, je pense qu'on peut lui reconnaître à Desmond Tutu, donc ce prêtre sud-africain, on peut lui reconnaître une expérience de ce que c'est que la dictature en Afrique du Sud, pour savoir que effectivement ces sortes de pleurs, de cris, de plaintes de ces chefs d'État africains, au fond, c'est pour cacher leurs méfaits. Moi, je pense que quand ils n'ont rien à se reprocher, c'est une cour. Donc, il y a un procès contradictoire. Donc, ils ont la possibilité de défendre. Et d'ailleurs, je crois que le président kényan s'est défendu et qu'aujourd'hui, les charges qui étaient contre lui ont été levées. Charles Taylor a été condamné. Et je pense que Charles Taylor a juste raison. On peut comprendre qu'il ait été condamné. Quand on connaît l'histoire du Libéria, qui est profondément liée à l'histoire de l'esclavage d'ailleurs, et quand on sait comment le Liberia a évolué sous l'époque de Charles Taylor, on peut comprendre également les difficultés que ça peut avoir. Oui. Moi, je pense aussi que c'est aussi l'incapacité des chefs d'État africains, des États africains, à assurer leur propre justice qui entraîne cela. Regardez ce qui s'est... Alors, le Sénégal a réussi dernièrement à juger Hissène Habré, hein, qui est l'ancien président du Tchad.
La chambre africaine.
Voilà. Et ça, pour une fois, c'est une bonne chose, puisque les instances de l'Union africaine ont mis en place des chambres africaines. Donc, une institution, une juridiction spéciale pour juger, effectivement, d'un certain nombre de crimes et de délits. Le chef d'État tchadien, disons, est malheureux, puisque lui, il est venu se réfugier au Sénégal. Il est là depuis 20 ans. Donc, on a pu se saisir de lui très facilement. Voilà. Par contre, Gbagbo, qui aurait pu être, effectivement, jugé devant cette cour, Gbagbo, finalement, c'est la Cour pénale internationale qui a mis la main sur lui et qui va le juger. Donc, vous voyez qu'au fond, moi, je suis d'accord sur le fait que cette cour, effectivement, elle va s'attaquer aux plus faibles, mais les plus faibles et les moins légitimes. La question du droit, cher professeur, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le droit, c'est la loi du plus fort. Et aujourd'hui, les plus forts, c'est effectivement les Occidentaux. Et ils ont fixé un certain nombre de règles. Il est heureux que ces règles correspondent aux besoins de démocratie des États africains, parce qu'au fond, les peuples africains, ce qu'ils veulent, c'est ça. Mais pour autant, c'est vrai, c'est une contrainte qu'on fait peser sur nos États, mais qui est due à l'incapacité de nos propres États à assurer notre justice.
Très bien. Alors, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais tu me permettras de revenir sur ce point rapidement pour te dire simplement que c'est peut-être un peu plus complexe aussi, un tout petit peu plus complexe, mais je suis d'accord avec toi. Et ici, on est là pour parler de toi et du livre. Mais il se trouve que je me suis retrouvé à Addis Abeba avec des experts sur la réconciliation entre l'ACPI et les pays africains. Et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une cour qui doit exister. Elle est nécessaire pour des raisons que tu viens d'évoquer. Mais il y a des arguments très forts qui ont été développés là-bas. Par exemple, pourquoi Bush, qui est allé en dehors de l'accord des Nations Unies en Irak, etc., etc. Surtout, mais un autre point qui me paraît fondamental dans leur argumentation, rapidement, parce que ce n'était pas prévu que je dise cela, c'est que l'un des ambassadeurs qui était là a dit, mais parce qu'il y avait le président ougandais qui avait voté une loi en ce moment-là pour une loi qui condamne à mort tout homosexuel qui se marie ou quelque chose comme ça. Alors, il pose une question qui était fondamentale, en fait, qui n'était pas liée à la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale n'est pas compétente pour ça. Mais il dit, est-ce que finalement, cette Cour n'est pas l'incarnation d'une domination d'une civilisation occidentale sur nos valeurs traditionnelles? Quel est le chef d'État qui ose voter une loi du mariage pour tous dans nos pays où les sociétés n'ont pas encore atteint un degré de maturation de cette mentalité? Est-ce que demain, ce chef d'État qui condamne un homosexuel à mort ne va pas être jugé sur la base de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui ne correspond pas à l'évolution des traditions, etc. Donc c'était à la limite une remise en cause non seulement de la Cour pénale internationale elle-même, mais derrière c'était une sorte de remise en cause d'un paternalisme occidental sur l'évolution de leur société. Donc, c'était un peu plus complexe. Mais je ferme la parenthèse. C'est la raison pour laquelle je dis que tu poses beaucoup de débats et c'est très intéressant. Je vais passer maintenant au secteur interne des États, c'est-à-dire à la démocratie. Alors là, la démocratie a occupé beaucoup. La démocratie a occupé un terrain extraordinaire dans son ouvrage, ce qui est normal parce que nous sommes dans un continent où les pays se cherchent. Alors, je vais te donner les trois points que j'ai relevé et sur lesquels tu pourras répondre comme tu voudras. Alors, le premier problème de la démocratie, il y en a trois ou quatre. Le respect des droits des libertés. Tu as fustigé tu as vraiment remis en cause les décisions gouvernementales d'interdire aux populations de manifester dans la rue. Une atteinte à une liberté. Vraiment, page 113, très belle lettre, très belle page. Tu as abordé aussi l'affaire de Wade, avec le fils de Wade qui est en prison, avec une juridiction qui n'est peut-être pas bien assise. Tu as abordé aussi la liberté de presse avec des convocations de journalistes tous les jours. Dès l'instant qu'ils abordent une question sensible, ils sont convoqués, interrogés, retenus dans les locaux du commissariat. Mais surtout, tu as évoqué un fait qui est l'expulsion d'un journaliste tchadien à partir d'un accord entre la République tchadienne et la République sénégalaise, et puis des honneurs aussitôt après qui ont été faits au président tchadien alors qu'on venait d'expulser un journaliste sans savoir quel était le sort qui lui était réservé dans ce pays-là. Et puis enfin, le discours d'Obama avec Macky Sall sur l'homosexualité et le rejet du président sénégalais de l'homosexualité dans son pays. Ça, c'est un premier point de menace des libertés. Tu as abordé vraiment dans plusieurs parties de ton ouvrage, tu as posé des questions relatives au respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux. Et puis ensuite, tu as parlé des révisions constitutionnelles à n'en plus finir, avec des non-respects de la parole, comme par exemple la réduction du mandat du président, etc. Et puis surtout, tu n'as pas beaucoup j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup confiance à une opposition et finalement une alternance démocratique. Voilà résumé un certain nombre de choses que j'avais notées dans ton ouvrage. Opposition, révision constitutionnelle, et puis respect des droits et libertés.
Ce sont des questions effectivement importantes et c'est au fond ce pourquoi ce livre s'intitule « Mémoire d'alternance inquiète ». Parce qu'au fond, sur l'ensemble de ces questions, il y a aujourd'hui des inquiétudes extrêmement importantes qui s'expriment au Sénégal principalement, mais également dans la plupart des pays africains. C'est au fond la question de l'alternance au pouvoir, l'alternance politique. Elle est toujours porteuse de beaucoup de promesses, de beaucoup d'espérances, et à l'exercice du pouvoir faisant qu'elle génère énormément d'inquiétudes, de déceptions, de souffrances même de ces populations-là. Et nous sommes bien placés pour le savoir ici en France. C'est vrai que en Afrique, je me suis beaucoup interrogé sur ces questions et il y a eu des événements importants qui ont démontré que les espérances qui étaient portées et les promesses qui étaient faites par les pouvoirs donc en place, ces espérances-là, notamment dans le fait de respecter la liberté d'association, d'expression des citoyens, et quelque chose qui n'a pas été fondamentalement respecté. Et on a effectivement eu au Sénégal un certain nombre d'interdictions, extrêmement régulières d'ailleurs, de plusieurs manifestations que l'opposition ou la société civile sénégalaise voulait tenir. Et pour moi, ça m'a semblé effectivement attenter à la liberté d'expression. Le contexte sénégalais est très compliqué, si on peut dire. On a une sorte d'alternance politique qui avait même des airs d'insurrection, hein, puisque nous avons eu un premier président que vous connaissez tous, Léopold Sédar Senghor, qui est resté pendant 20 ans. C'est le seul président, encore aujourd'hui, le seul président à avoir quitté ses fonctions volontairement. Dans les années 80, vous vous imaginez, je ne parle pas seulement d'Afrique, mais dans le monde entier, il n'y a pas, en tout cas pas à mon souvenir, d'un président qui, dans les années 80, pouvait volontairement, sans aucune contrainte ni de la rue ni personne, remettre le pouvoir en disant « j'ai fini ce que j'avais à faire, je rentre chez moi ». Donc c'est un exemple extrêmement fort. Et d'ailleurs, le Sénégal, pour moi, fondamentalement, vit encore sous l'héritage de Senghor. Puisque le Sénégal est un pays, alors ces derniers mois, ces dernières années, on découvre de l'or par-ci, du pétrole par-là. Ça génère énormément de fantasmes. Mais le Sénégal est un pays qui est extrêmement faible économiquement. Par rapport à la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne pèse rien. Voilà. Mais le Sénégal a eu des hommes d'État extrêmement importants, et notamment Senghor, avec un héritage très fort. Et le pays a toujours vécu là-dessus, jusqu'à aujourd'hui. On a eu le président Diouf, après, le grand et longiligne chef d'État, qui pendant 20 ans, ce que je soutiens, s'est endormi. Parce que le Sénégal, pendant 20 ans, sous Abdou Diouf, il n'y a eu rien. Il a vécu sur l'héritage de Senghor, l'héritage colonial. La présidence Wad, pour moi, et l'histoire, je crois, le démontrera dans les prochaines années, est extrêmement essentielle. C'est un tournant. Les années 2000, c'est Abdoulaye Wad qui fait rentrer le Sénégal dans la modernité pendant ses 12 ans. Je l'ai un peu connu. Je l'ai combattu aussi à un certain moment, mais il faut reconnaître que cet homme-là, pendant les 12 années où il est resté au pouvoir, il a malheureusement, et les hommes d'État africains surtout, mais je pense que c'est pareil partout, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils sont incapables de quitter le pouvoir. Voilà. Il faut qu'il y ait des institutions fortes comme la France ou les États-Unis. Bon, ils peuvent pas faire ils n'ont pas le choix, ils partent. Ou bien des institutions faibles comme au Sénégal, et Abdoulaye Wade a voulu changer la constitution, il a échoué, et donc il y a un de ses lieutenants qui est devenu président de la République, Macky Sall. Et lui sa conquête du pouvoir s'est faite sur une promesse qui laissait vaille que vaille de tenir. C'est ce qu'on appelle au Sénégal la traque des biens mal acquis. La traque des biens mal acquis, c'est-à-dire une lutte contre la corruption. Il s'est servi d'un organe judiciaire d'exception qui a été créé il y a longtemps, que personne ne voulait utiliser, qu'il a réactivé. Et il l'a réactivé dans des conditions et dans des circonstances et dans des modalités et dans des résultats que nous voyons aujourd'hui qui sont totalement, disons, contraires à ce qu'on appelle l'état de droit. C'est ce qu'on appelle la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui vient de condamner en avril dernier, avril 2015, le fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, qui était le ministre du ciel, de la terre et de la mer, puisqu'il avait 4 ministères, et effectivement dans ces domaines-là, qui vient de le condamner à 6 ans de prison et plusieurs millions de francs CFA d'amende. Mais figurez-vous que cette cour a réussi la prouesse de condamner quelqu'un à 6 ans de prison pour corruption et de décider dans la même décision judiciaire que cet homme reste électeur et éligible. C'est le seul pays au monde qui peut condamner quelqu'un pour corruption et pour décider que cette personne est irréprochable du point de vue de sa moralité. Il peut se présenter aux élections présidentielles. Uniquement, pourquoi ? Parce que le parti de Abdoulaye Wade, le PDS, lorsque le fils a été emprisonné, pour gêner le pouvoir, a fait du fils son candidat pour les élections présidentielles à venir. Et le pouvoir, voulant se prémunir de cette attaque donc qui soupçonnerait de vouloir écarter un concurrent, a dit, bon, vous allez rendre cette décision, mais surtout, il reste électeur et éligible. Quelque chose qui est totalement anachronique et incompréhensible. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu à critiquer effectivement cette décision, cette cour, parce que je crois que le peuple sénégalais, sur beaucoup de domaines, n'était pas, en tout cas, il me semble, n'était pas prêt à cette cour et que ça a entraîné une tension extrêmement forte qui continue encore aujourd'hui d'exister. Et d'ailleurs, cette cour ne s'est attaquée au fond, n'a condamné au fond que le fils du président. Bon. Alors que nous avons quand même un régime qui est beaucoup plus important. Rapidement sur la question de la sexualité, enfin l'homosexualité, ça c'est une question majeure en Afrique aujourd'hui. Parce que les Africains, comme d'ailleurs tous les pays, se sentent menacés. Il y a la mondialisation, ils voient aujourd'hui dans leurs tablettes de téléphone, les modes de vie occidentaux font irruption dans leurs salons, jusque dans leurs villages. Voilà. Donc la question de l'homosexualité, elle les obsède. Et elle crée des fantasmes terribles, et surtout au Sénégal. Vous imaginez, au Sénégal, il y a des gens qui vont déterrer, des gens qui sont enterrés dans des cimetières, parce qu'on les soupçonne d'homosexualité. Ça existe au Sénégal. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que la crainte et les peurs sénégalaises sont compréhensibles, parce qu'ils se sentent menacés, ils sentent que leur modèle de société va disparaître plus en faveur du modèle occidental. On peut comprendre ça. Mais il y a quand même, il me semble, des valeurs qui sont des valeurs sénégalaises. Le pays a toujours connu des gens qui ont des pratiques sexuelles diverses. Dans notre enfance, il y en avait plein, mais ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, je crois, les inquiétudes, c'est peut-être la visibilité de plus en plus importante que peut avoir cette communauté-là. Et c'est vrai qu'ils ont toujours cette crainte que les pays occidentaux n'influencent nos pays pour qu'ils légalisent l'homosexualité. Ce qui fait qu'Obama, lorsqu'il est venu au Sénégal, c'était le point nodal sur lequel il était beaucoup attendu. Le président Macky Sall, à juste raison, a effectivement dit que c'était une pratique qu'il n'autoriserait pas dans son pays parce que cette pratique n'est pas conforme aux valeurs et aux traditions du pays. Et moi, je suis d'accord avec lui là-dessus. Mais par contre, je crois qu'il est de la responsabilité de l'État sénégalais à veiller à la sécurité des gens, quelle que soit leur pratique sexuelle, qu'elle soit légale ou non, il faut veiller à leur sécurité.
Je vais passer à la sécurité parce que là aussi, tu as abordé beaucoup de choses. Et sur la sécurité, le point le plus important pour moi a été le terrorisme. Tu as abordé le terrorisme. Et le terrorisme permet de te poser des questions connexes. D'abord, tu nous dis qu'il y a une incapacité des États à assurer la sécurité des populations. Première chose, dans 2 ou 3 pages, hein, ce sont des lettres qui se suivent, vous verrez. Et puis, tu nous dis mais il y a une inaction des chefs religieux qui ne disent rien, alors qu'ils auraient pu contribuer à la lutte contre l'intégrisme et le terrorisme. C'est intéressant, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, 90% de musulmans, avec ce qu'on appelle les confréries, qui sont très fortes, on aurait souhaité que ces confréries s'impliquent dans la lutte contre le terrorisme. Apparemment, si on t'écoute, si on te lit, ben, ces terroristes, ces chefs religieux, c'est pas un lapsus révélateur, hein. Mais ça peut l'être aussi. Ces chefs religieux sont complètement en dehors. Alors, sont-ils complices? Bon, c'est une question que je te pose. Ensuite, la France-Afrique revient. Alors, la France-Afrique revient grâce au terrorisme, apparemment. Alors, moi, sur ce point, je suis un peu choqué. Alors, c'est pourquoi je dis que certains pourraient être choqués en te lisant. Moi, j'ai toujours défendu l'intervention française au Mali. Toujours. Parce que je me suis dit, mais si la France n'intervient pas, mais ce sont des mains coupées, ce sont des filles de 11 ans violées, etc. Et puis, ce n'était pas que le Mali, c'était toute l'Afrique de l'Ouest qui a été menacée. Et puis, paradoxalement, et tu l'as dit tout à l'heure, tu dis que l'Afrique est incapable de mettre en place une armée. Alors, si l'Afrique est incapable de mettre en place une armée, une autre puissance étrangère vient nous sauver de ce mal qui est le terrorisme, et tu condamnes la France en disant, mais finalement, c'est une action qui vient comme ça, humanitaire, mais en réalité, c'est vraiment autre chose. C'est le retour de la mainmise de la France sur l'Afrique, etc. Deuxième point, donc je m'interroge. Moi, je ne suis pas tellement favorable, à moins que tu me démontres le contraire. Et puis, finalement, d'ailleurs, la France vient couvrir les chefs d'État qui, sous le prétexte du terrorisme, appellent la France pour qu'elle vienne justement les aider à maintenir leur situation de dictateur. En fait, c'est un peu ça, quoi. Le terrorisme, c'est pas faux, d'ailleurs, dans certains cas. Mais est-ce que vraiment la France... Et puis moi, pour te donner un argument de ma position, c'est que franchement, quel est le pays qui ne cherche pas ses intérêts? Tout étudiant de première année en relations internationales sait que l'État est un monstre et que la France cherche ses intérêts comme tout le monde. Qu'il y ait l'uranium ou pas, elle va y aller. Maintenant qu'elle sauve des petits-enfants, je trouve ça bien. Aux Africains de voir où sont leurs intérêts. Troisième point que je te pose, c'est vraiment quand tu dis qu'il fallait laisser les Africains régler seuls ce problème. Régler seuls ce problème. Et puis en préconisant la disparition des frontières, de revenir sur les frontières, de faire des... Moi, je dis, voilà, le principe, et je reviens à l'OUA à l'époque. Parce que si le groupe de Senghor, etc., parce qu'ils étaient partagés, Monrovia, Casablanca, les deux, et si le groupe qui favorisait justement l'insertion de l'Afrique dans le monde moderne avait gagné, c'était en disant, ne touchons surtout pas à nos frontières, laissons-les telles quelles. C'est pourquoi il y a la Gambie, tout cela. Et toi, j'ai l'impression que tu veux qu'on revienne sur les frontières. Problème qui a été posé depuis longtemps. Et Edem Kodjo, en 98, dans le Figaro, avait dit, en tant que secrétaire général de l'Organisation des Nations, et finalement, avec tous ces problèmes fonciers, ces guerres ethniques, est-ce que finalement, ce n'est pas un problème de frontières? Alors, le débat est posé, tu le poses. Moi, je suis très content, mais j'aimerais bien voir comment tu peux résoudre tout cela.
mais, cher professeur, moi je ne suis pas là pour résoudre ça. Je suis plutôt là pour poser des questions, pour soulever des interrogations. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des solutions. S'il y avait des solutions à ce que traverse l'Afrique, je pense qu'on les aurait depuis longtemps. Je crois que c'est extrêmement complexe. La question du terrorisme, pour moi, fondamentalement, si le terrorisme qui frappe l'Occident s'est déplacé vers l'Afrique, fondamentalement, c'est pour les ressources de l'Afrique. Parce que les terroristes, ils sont dans une stratégie géopolitique. Et ils vont taper là où c'est faible, là où il y a des ressources. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués au Mali. Et effectivement, si la France n'était pas intervenue, le Mali serait tombé dans l'escarcelle des djihadistes. Et peut-être m'as-tu lu de biais, mais j'étais en faveur de l'intervention française au Mali. Comme d'ailleurs, et mes amis ivoiriens m'en ont voulu, mais j'étais en faveur de l'intervention française en Côte d'Ivoire à l'époque. Voilà. Donc, j'essaie d'avoir une certaine lucidité, un certain pragmatisme devant certaines situations. Mais ça ne m'empêche pas de rêver. Ça ne m'empêche pas de rêver. Et je continue.
Par exemple, la disparition des frontières.
Oui, je pense que fondamentalement, tant que la puissance coloniale a la possibilité de se déplacer en Afrique comme si elle était chez elle, effectivement, l'Afrique ne s'en sortira pas, ou difficilement. Ou bien ça va être très, très lent. Vous imaginez lorsque le Mali a été attaqué. Le Mali est aux frontières de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée, je crois. Alors, la France est arrivée la première à Tombouctou, à Kidal, avant le Sénégal. La France est arrivée la première. Alors que lorsque le Yémen a été attaqué, le Yémen, vous savez, c'est très loin hein, du Sénégal, ben, le chef d'État sénégalais a envoyé 2000 soldats sénégalais à la rescousse de l'Arabie Saoudite.
Ils ne sont pas encore partis, mais ils sont hein?
Mais
hein.
Oui, mais il l'a dit. Oui, oui, ils ne sont pas encore partis, mais vous voyez, et ce n'est pas la première fois, ouais. Puisque la guerre du Koweït, ouais. La première guerre du Golfe, 1991, le Sénégal avait envoyé des troupes. Et plus de 90 soldats sénégalais sont morts dans un avion, on n'en parle pas. Dans la première guerre du Golfe, qui était un massacre, on ne se rappelle plus de ça. Donc, vous voyez, ce sont les stratégies des chefs d'État africains qui déroutent. Comment on peut aller à la rescousse de l'Arabie Saoudite de l'autre côté et laisser le Mali se dépatouiller et attendre que la France vienne d'abord arrêter donc, les djihadistes pour après venir. Donc, ça, c'est la difficulté que nous avons et c'est ce qui me fait penser que, quelque part, cette faiblesse-là, parce que l'Afrique n'est pas faible, l'Afrique n'est pas pauvre, mais c'est une faiblesse entretenue. Ceux qui arrivent au pouvoir, ça leur sert bien qu'il n'y ait pas d'armée très, très forte. Puisque s'il y a des armées très fortes, il y a des menaces. Donc, ils préfèrent être faibles et fragiles en sachant que l'Occident, leurs partenaires occidentaux, seront toujours prêts à venir à leur rescousse. Mais les ressources africaines, elles sont extrêmement importantes. Elles sont pratiquement inépuisables. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle stratégie. Et notamment, les djihadistes ont fait... Enfin, ont fait. C'est pas une fête, c'est les 2 ans de Bring Back Our Girls. 200 jeunes filles qui disparaissent d'un pays. Vous imaginez ça? Là, comme ça, du jour au lendemain, il y a 200 personnes qui ont disparu du pays. On ne sait plus. Et à une époque, quand même, on est au 21e siècle où on peut tout tracer. Dans un pays aussi riche que le Nigeria, aussi puissant que le Nigeria, ils ont disparu. Pourquoi? Comment? Personne ne sait. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et voilà un problème. Le Nigeria, c'est un pays extrêmement complexe et intéressant, un système fédéral, avec des États qui sont rivaux, mais extrêmement corrompus. Toute la richesse du pays va à une certaine élite, et le peuple est oublié. Et cette jeunesse-là, si on ne lui donne pas les moyens de se développer, c'est-à-dire de trouver du travail, de construire une maison, d'éduquer ses enfants, mais bien entendu, il faut s'y attendre, malheureusement. Ils vont s'occuper. Et lorsqu'on leur tient un discours comme celui que leur tiennent les djihadistes, qui est le même discours qu'ils tiennent, il faut le savoir, ici. Ils ont le même discours, hein. C'est du copier-coller. Voilà. Dans les jeunes des banlieues françaises, on va les voir, on leur dit, vous n'êtes pas respectés, vous ne comptez pas, vos ancêtres se sont battus pour rien, prenez les armes, vous allez donner un sens à votre vie. Parce qu'ils en sont là, ils sont tellement désespérés que la mort est une façon de donner un sens à sa vie. Et en Afrique, ça produit effectivement des problèmes extrêmement importants. Sur la France-Afrique, bon, on n'en sort pas encore. François Hollande avait promis de revenir sur la France-Afrique.
Oui, il y a de belles pages là sur ça. Hein.
Voilà, il avait promis, hein, il avait fait sa campagne là-dessus, mais François Hollande a promis beaucoup de choses. Voilà, bon, on en est là, je ne vais pas développer davantage. En Afrique, je pense que même si la France voulait, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, même si la France voulait revenir sur ce système de relations avec l'Afrique, il y a des groupes d'intérêts et de pouvoir qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Donc la grande difficulté, elle est africaine, et c'est d'abord en Afrique qu'il faut la régler.
Très bien. Très bien, merci. Moi, j'ajouterai d'ailleurs, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense même que l'Afrique, ce n'est pas simplement le terrorisme sur lequel il faut réfléchir. Je crois que nous avons une population de plus de 60% qui ont moins de 20 ans. Et la prochaine explosion, c'est là, sociale. Et ça, ils ont des diplômes, ils chôment. Et on se focalise sur le terrorisme, ce qui est très intéressant. Mais attention à ces 60% de la population africaine de moins de 20 ans. Ça va être une explosion. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, je vais au chapitre social, économique, rapidement. Alors, l'université, justement. Mais ces jeunes qui font l'université. Il y a 2 points que tu soulèves. C'est pratiquement une université sacrifiée. L'éducation est sacrifiée en Afrique, le Sénégal, etc. Et ce qui est paradoxal, c'est que là où la France ferme ses portes, les étudiants vont ailleurs, au Canada, aux États-Unis. Tu ne le dis pas, hein, pas directement, mais on le voit, que la France n'est plus du tout compétitive par rapport au Canada, aux États-Unis. Et pourquoi la France ferme-t-elle ses portes aux étudiants francophones et des universités qui ne fonctionnent pas, avec des grèves qui n'en finissent pas, un pouvoir politique qui ne les écoute pas, qui n'investit pas. De manière anecdotique, moi, j'ai dit à un collègue au téléphone que j'ai fini tous mes cours de cette année avant-hier. Il était surpris parce qu'il commence à peine le premier semestre, parce qu'il y a eu des grèves, il faut rattraper les choses. Ça veut dire que ça ne marche pas du tout. Et donc, du coup, les étudiants veulent venir dans des universités occidentales pour pouvoir avoir un calendrier normal. Et là, tu le dis bien. Alors moi, j'ai juste ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe dans les universités? Quelles sont les questions que tu soulèves là-dessus, rapidement? Non, rapidement. Parce qu'il y a d'autres questions. Je n'aborde pas les inondations dans les villes. Je n'aborde pas les petits vendeurs de bibelots qui sont déguerpis parce qu'ils gênent le touriste, etc. Mais j'aborde un point, j'y tiens, c'est les talibés, les jeunes que les marabouts entretiennent dans la rue par la mendicité de 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est terrible. Alors moi, je te pose la question directement parce que j'ai envie d'avoir une solution là. Ça fait des années que les gouvernements s'attaquent à ce phénomène et chaque fois qu'on va à Dakar, on dirait que les jeunes talibés augmentent en nombre. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est l'État? Quelle solution? Et puis l'université, le chômage, quelle solution? Voilà. Mais rapidement, parce qu'il me reste quand même le colonialisme.
Mais rapidement, sur la question d'abord des étudiants africains qui sont formés par la France, c'est vrai qu'on est nombreux à être formés en France. Et c'est une très bonne chose, c'est un instrument de diplomatie pour la France, d'influence pour la France. Mais c'est vrai que ces dernières années, il faut bien l'admettre, et tu as raison de le souligner, beaucoup de ces étudiants partent, ne viennent plus pratiquement en France. Ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis, parce qu'effectivement, la législation française s'est extrêmement durcie pour les étudiants. Certains même viennent ici, et au bout d'un certain nombre d'années, ils partent, au Canada notamment. Et ça, c'est un investissement, ce sont nos impôts. On investit sur ces jeunes-là. Voilà. On investit, on les forme, ils restent là 3-4 ans. Mais comme on est incapable de leur trouver des solutions, ils s'en vont. Donc c'est une perte à gagner pour l'État français. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'effectivement, ici en France, on ait une réflexion là-dessus et qu'on sorte de cette réglementation, de cette législation qui est totalement contre-productive parce qu'on perd beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour mettre en difficulté ces étudiants pour qu'ils partent. Et beaucoup d'argent pour les former. Donc, du coup, on perd énormément. Et non seulement on perd cet argent, mais on perd aussi les capacités d'influence qu'on peut avoir aussi, et c'est légitime, sur ces pays-là. Parce que ce sont des gens, voilà, s'ils sont formés en France, et on le voit, mais quand ils rentrent chez eux, ils ont une part de culture française. Moi, ça fait 20 ans que je vis ici, en France. Bon, je me sens français. Je me sens sénégalais, c'est vrai, mais je me sens français. Voilà. Et j'ai une façon de penser, une façon de réfléchir, et les intérêts de la France me préoccupent, même si je les bouscule, que je les malmène de temps à autre, mais ils me bousculent comme je malmène les intérêts sénégalais. Voilà. Et donc, sur les étudiants, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça, parce que ça peut jouer à notre défaveur. Pour l'université sénégalaise, c'est vrai que j'ai consacré pas mal d'articles là-dessus. Moi, je suis un ancien gréviste de l'université de Dakar. Voilà. Je suis un ancien gréviste, dirigeant de grève. J'ai expérimenté ces solutions-là et je sais que l'université est extrêmement fragile de ce point de vue-là parce qu'elle est fortement instrumentalisée par les hommes politiques, par les partis politiques. J'étais l'un des rares dirigeants du mouvement étudiant à ne pas être dans un parti politique. Tout le monde était politisé. Voilà. Et pour moi, cette politisation est une des raisons des crises que traverse cette université. En plus du fait que l'exode rural et surtout l'appauvrissement des campagnes ont chassé beaucoup d'étudiants donc vers les grandes métropoles où on a créé des universités. Mais si vous voulez, l'État sénégalais, au lieu d'améliorer l'existant, s'est employé à créer des universités dans chaque grande ville. Mais ces universités vivent dans des situations extrêmement déplorables. Extrêmement déplorables. Et la dernière chose qui a été extrêmement, en tout cas, virulente, c'est effectivement une commission qui a été mise en place pour améliorer le fonctionnement de l'université, une commission que les étudiants ont critiqué, ont combattu, puisque cette commission prévoyait notamment l'augmentation des frais d'inscription que les étudiants ne peuvent pas payer. Et en plus, elle enclenchait une forme de privatisation de l'université, alors qu'on sait que le service public, quand même au Sénégal et en Afrique, est extrêmement important, extrêmement vital. Donc, entre autres, voilà. Bon, sur les Dara, j'ai consacré quelques articles, notamment parce qu'il
les
y a
Dara,
eu...
Les Dara, ce sont les écoles coraniques.
Les écoles coraniques. Ça, c'est un gros problème au Sénégal. Parce que l'islam africain, c'est un islam confrérique. Il y a toujours des petits chefs. On aime bien être des chefs. Donc, chacun ouvre sa petite école, dit qu'il enseigne le Coran. Bon, fait réciter les enfants. On ne leur explique pas vraiment ce qu'ils apprennent, mais on les fait réciter. Les parents, qui sont assez irresponsables et qui ont une progéniture importante, se débarrassent de certains en leur confiant. Voilà. Comme il faut bien les faire vivre, les chefs les envoient à les quémander. Voilà. Alors, moi, j'ai écrit là-dessus parce qu'il y a eu un incendie à la Médina, un quartier de Dakar, et il y a eu des gamins qui sont morts.
13.
Bon, alors moi, je dis, voilà, il faut quand même que l'État intervienne. Il faut que l'État intervienne, que cette pratique qui semble acceptée et qui est aussi une régulation sociale. Hein. Il faut imaginer ce que seraient ces enfants-là s'il n'y avait pas de cadre, parce qu'on ne peut pas les envoyer à l'école publique. L'école publique est déficiente et les parents n'ont pas de moyens. Donc, c'est quand même important. Mais il faut que l'État puisse réglementer ce secteur et puisse garantir des conditions de résidence, de travail, d'éducation sérieuses qui n'exposent pas cette jeunesse-là à cela. Et c'est ce qui explique que j'ai écrit ça, mais on est vraiment loin du compte.
Très bien, mais ce qui m'intéresse sur ça, c'est que tu ne t'es pas limité aux talibés. Toujours, je me pose cette question, quelle est la solution? Mais bon, parce que tous les gouvernements qui arrivent disent qu'ils vont régler ce problème, et pourtant non. Mais c'est que tu as dit que finalement, c'est quelque chose qui s'est limité. Et j'étais surpris de le voir parce que je le pensais. Tu as dit, mais finalement, ça ne se limite pas aux talibés, c'est quelque chose qui est devenu culturel. Jusqu'aux fonctionnaires, il y a la mendicité. Donc, c'est devenu quelque chose qui est dans la société. Tout le monde demande à tout le monde, de haut jusqu'en bas, et que donc finalement le phénomène des talibés est un phénomène visible, mais le reste est là. Ça, c'est intéressant comme débat que tu peux soulever. Enfin, sur l'université, d'abord, c'est une université qui est considérée comme la meilleure dans la sous-région, malgré tout ce que tu dis. Parce que c'est une université qui a toujours cette renommée et qui fait des diplômes encore dans toutes les disciplines. Le problème, c'est que c'est aussi complexe, mais je ne défends pas l'université. Je pense que tout ce que tu as dit là-dessus est vrai. C'est que toute la sous-région est déstabilisée politiquement et tous les étudiants viennent s'inscrire à Dakar, comme avant, parce qu'avant, c'était la seule université de la sous-région. Maintenant, depuis la crise en Côte d'Ivoire, au Mali, partout, les étudiants viennent s'inscrire à l'université de Dakar. Ce qui fait qu'actuellement, en première année de droit, ils sont 7000. Parce que les Sénégalais ont dit qu'ils ne vont pas rejeter les étudiants vers chez eux. 7000 étudiants en première année. Et donc, les collègues ne savent pas comment ils s'y mettent, mais pour corriger les copies, c'est toute une histoire. Bon, c'était les deux points sur lesquels je voulais peut-être... Et puis, enfin, le colonialisme, deux questions. Colonialisme, mémoire, racisme. Mais comme tu as beaucoup écrit là-dessus, tu as beaucoup fait là-dessus, tout le monde te connaît dans ton implication à Bordeaux. Tu fais même visiter les touristes. Tu les fais faire un tour à Bordeaux, un circuit, tu en parleras mieux que moi. Mais moi, j'aimerais surtout te poser deux questions. La première question concerne la commémoration de l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui se fait en France, mais qui, paradoxalement, ne se fait pas au Sénégal, alors qu'il y a une loi pour cela. À la limite, je crois que tu en veux beaucoup au président actuel d'avoir oublié que l'esclavage existait. Première question. Deuxième question, un point sur lequel on n'intervient jamais, on ne parle pratiquement jamais, c'est la colonisation arabe, l'esclavage arabe. Mais les Arabes, apparemment, et là, tu as vraiment abordé la question en disant, mais il ne faut pas oublier que les Arabes ont colonisé et ont tué, ont mis l'homme noir plus bas que terre, si je peux m'exprimer ainsi. Et surtout, tu as réactualisé le racisme dans les pays arabes. Les migrants qui sont jetés dans le désert ou qui sont tués, qui font l'objet d'aucun respect de la part des populations arabes. Eh bien, j'aimerais bien que tu reviennes sur cela. Je n'ai pas le temps, mais j'avais tellement de questions à te poser. Mais sur ces deux questions, quand même, j'aimerais bien que tu en parles à nos auditeurs.
Et d'abord, une petite anecdote pour dire combien la société sénégalaise, et peut-être pas une spécificité sénégalaise, africaine, est effectivement portée sur cette... Bon, il ne faut pas exagérer ni généraliser, mais en tout cas, cette culture de demander... surtout à ceux qui ont le pouvoir, et quelque chose de répandu. Quand j'ai rencontré le président Abdoulaye Wade pour la première fois, je l'ai vu à son bureau. Nous avons une discussion d'intellectuel. Voilà. J'étais venu pour une chose très précise et qui est en lien avec la question que tu me poses. C'était pour que le Sénégal soit le premier pays africain à déclarer l'esclavage et la traite des Noirs crime contre l'humanité. J'étais venu pour ça. À la fin de la discussion, il me dit, mais vous avez besoin de quoi ? Où vous en êtes là ? Je lui dis, mais monsieur le président, moi, j'ai juste besoin que vous votiez cette loi. Il était un peu perdu. Il ne comprenait pas. Alors, comme il voulait quand même que je parte avec quelque chose, il me sort tous les livres qu'il avait écrits. Il me les dédicace, il me les donne. Quand je rentre chez moi, on me dit, mais où est ta valise ? Je dis, mais quelle valise ? Il dit, mais président Wade, quand il reçoit quelqu'un, on sort avec une valise. Je dis, mais non, je n'ai pas de valise, moi, j'ai des livres, regardez. On m'a dit, mais toi, tu ne vaux rien, c'est comme ça. Enfin, j'aurais pu le dire en Wolof, mais voilà, mais je ne vais pas le dire en Wolof. Mais on m'a dit que j'étais quelqu'un qui ne valait rien, parce que je suis incapable de demander. Voilà. Parce que c'est ça la culture aussi. Quand on rencontre un homme de pouvoir, un homme d'État, il faut lui demander de l'argent. Voilà. Moi, j'étais incapable de le faire. Donc, c'est pour dire qu'on a cette culture-là qui est très forte. Sur les questions liées à la mémoire, bon, je ne vais pas parler de Bordeaux. Vous connaissez sûrement le travail que nous faisons depuis 18 ans maintenant. C'est l'âge de la majorité. Ça fait 18 ans. Donc, je développe. Moi, il y a juste une expérience, et tu en as parlé, c'est le Bordeaux nègre, cette visite guidée. Moi, ce Bordeaux nègre m'a beaucoup fait de bien. Parce que si vous voulez, quand on est militant, quand on est intellectuel, souvent on s'enferme dans des lieux dans lesquels on est avec des gens qui pensent comme vous. On les rencontre, vous discutez, tout le monde est content, vous vous tapotez sur le dos et vous partez. Et vous pensez avoir changé le monde. Voilà. Et je me suis dit à un moment donné que je n'en pouvais plus de ça, que j'avais envie de rencontrer les gens. Et j'avais envie de faire quelque chose, on peut même dire banal, parce qu'il n'y a rien de plus banal qu'une visite guidée. Eh bien, j'ai fait une visite guidée sur le Bordeaux nègre, timidement d'abord. Et au fur et à mesure, les Bordelais sont venus. La presse a commencé à en parler. J'ai fait le point, parce que je passe à un autre parcours sur les Chartreux, j'ai fait le point, j'ai rencontré environ 7000 personnes en 4 ans. Des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, qui viennent de la région bordelaise, de Bordeaux, d'ailleurs, qui reviennent avec leur famille. Je ressens un profond respect pour le peuple français avec cette visite guidée. C'est un peuple qui aime la culture, vraiment, et qui respecte la liberté d'expression. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ils sont venus avec leurs femmes, leurs enfants, avec leurs parapluies, quand il pleuvait, quand il faisait froid. Aucun n'a décommandé. J'ai rarement eu de personnes qui, parce que le temps était mauvais, disent, on ne vient pas. C'est moi-même qui, par frilosité, quelquefois, décommandé. Et je peux vous l'assurer. C'est pour vous dire que, moi, ça a totalement changé mon regard sur le pays, sur le travail et sur toutes ces choses. Et bien sûr, et je n'ai pas attendu ça, mais bien évidemment, la question de ce qui se passe en Afrique, sur la question de l'esclavage, m'interroge. À part le Sénégal, aucun pays africain n'a déclaré l'esclavage crime contre l'humanité. Aucun pays africain ne commémore l'esclavage. Vous imaginez un continent qui, pendant 400 ans, est vidé, je ne dis pas de 15 millions de personnes, parce que c'est 15 millions de déportés, mais sur 15 millions de déportés, on sait que pour un esclave déporté, il y en a au moins 3 qui pouvaient mourir dans les conditions de la capture et de la traversée. Vous imaginez ? Pendant 4 siècles, ce continent subit ça. On est au 21e siècle et aucun pays africain ne s'est dit c'est un moment fondateur de notre civilisation, de notre culture. Il faut qu'on le célèbre. Aucun. Alors, on a une sorte de mémoire touristique. On va à Gorée, on fait pleurer à Gorée, à Ouida, au Bénin, à Badagry, au Nigeria, hein, à Elmina, au Ghana. Mais on ne célèbre pas. On exile cette mémoire sur l'île, sur l'océan. Et il a fallu tout un combat. Et le président Wade, encore une fois, et quelqu'un qu'il faut saluer parce qu'il a compris l'intérêt de cette loi. Il a voté cette loi. Le Sénégal a une date de commémoration. L'État sénégalais ne veut pas commémorer. Parce que Wade a voté la loi en 2010. En 2011, il a refusé de faire quoi que ce soit sur le sujet. La loi lui servait uniquement parce qu'il y avait le monument de la Renaissance africaine. C'était une pilule, le Sénégalais n'en voulait pas. Mais pour faire passer la pilule et mobiliser toute la communauté militante afro-américaine et partout, il fallait faire voter cette loi. Donc, il vote la loi pour ça. 2011, il n'a pas voulu. 2012, on l'a dégagé. Le nouveau pouvoir qui est là n'a pas une mémoire historique. Vous imaginez, l'actuel président, le 10 mai dernier, 10 mai 2015, le 27 avril, c'est la date de commémoration de l'esclavage au Sénégal. Donc, nous avons réussi depuis l'an dernier à convaincre la ville de Dakar à s'associer avec nous. Donc depuis l'an dernier, d'ailleurs je pars à Dakar demain, depuis l'an dernier, on organise le 27 avril avec la mairie de Dakar une commémoration à l'hôtel de ville de Dakar. L'État sénégalais est absent. Mais non seulement ils sont absents, mais l'année dernière, le 10 mai dernier, qui est la date de commémoration en France, le président sénégalais est allé répondre à l'appel du président français en Guadeloupe. Vous imaginez, incapable de respecter sa propre loi, il va respecter la loi de la France. Voilà les contradictions dans lesquelles on se trouve sur ce sujet. Alors, nous, le travail citoyen se fait et il est vraiment important. Je finirai juste par, effectivement, l'esclavage arabe. On n'en parle pas. On a une vision extrêmement étriquée de l'esclavage. On parle de Bordeaux, de la France, de l'Occident, comme si ça pouvait expliquer tout. Moi, je vois deux raisons pour ça. Première raison, la loi Taubira. C'est une avancée, parce qu'avant la loi Taubira, on n'avait rien. Mais la loi Taubira, elle pêche de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que la loi Taubira ne parle que de l'esclavage occidental. Et la loi Taubira aurait pu parler de l'esclavage arabe. Pas de l'esclavage actuel, parce que ce n'est pas la même chose. La différence entre l'esclavage qui s'est pratiqué entre le 7e et le 20e siècle, quand je dis 7e et 20e siècle, je mets les Africains dedans et les Arabes dedans. Parce que les Arabes, c'est 7e, 20e siècle. Et les Occidentaux, c'est 15e, fin 15e, 19e siècle. Voilà. Les Africains, ils ont toujours fait ça. Voilà. Et quand je parle de ça, je dis la loi Taubira, elle omet ça. Elle ne parle que de l'esclavage occidental. Elle ne parle pas de l'esclavage arabe. Mais si elle pourrait, pourquoi ? Parce que si la France est capable de décider que le génocide arménien, de faire une loi sur le génocide arménien qui ne s'est pas passé en France, ben, la France peut faire une loi pour dire que l'esclavage commis par les Arabes sur les Africains est un crime contre l'humanité. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent puisque il y a ici... Parce que la loi sur le génocide arménien, c'est une réponse à la communauté arménienne qui est ici en France. Bon, il y a une communauté noire en France qui a vécu effectivement, enfin qui a souffert de l'esclavage par les Arabes. Je pense que la loi Taubira aurait pu le faire. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est limitée à l'Occident. Et pour moi, c'est avoir une vision restrictive de ce problème-là. Mais aussi parce que les pays africains, pour des raisons stratégiques et tactiques, se sont dit, on va taire nos divergences avec les Arabes. Et puis, on va faire face à l'Occident qui est dominateur aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas bon, c'est contre-productif. Pourquoi ? Parce que ça a généré dans ces pays arabes un racisme et des discriminations extrêmement tenaces qui existent encore aujourd'hui. Je suis allé en Tunisie, je suis allé au Maroc. Vous allez en Tunisie, au sud de la Tunisie, à Gabès, à Djerba. À Djerba, vous avez deux cimetières. Un cimetière pour les Blancs, un cimetière pour les Noirs. Tous des Tunisiens. Vous allez à Gabès, il y a deux bus scolaires. Un pour les Noirs, un pour les Blancs arabes. Donc voilà, et tout ça c'est un héritage de cette histoire-là et de ces populations qui ont été extrêmement importantes, qui effectivement ont été totalement fondues, parce que dans l'islam, quand on se convertit, bon, on est libre, il y a eu beaucoup de mariages, donc ça s'est fondu, mais pour autant, ça pose encore des questions aujourd'hui. Il faut quand même dire aussi que la Tunisie est le seul pays maghrébin, arabe, à avoir aboli l'esclavage avant la France. Le 23 janvier 1846, la Tunisie, le bey de Tunisie, Ahmed Bey à l'époque, abolit l'esclavage avant la France. Seulement, il n'y a pas un travail citoyen, mémoriel, qui est fait aujourd'hui. Et je pense que ce serait une façon de participer à l'amélioration de la condition des Noirs africains qui vivent aujourd'hui dans ces pays arabes.
Merci beaucoup. Je veux simplement dire que... Très bien, c'est un nouveau, comme vous le voyez. Et là, je n'ai parlé que du dixième des questions, de polémiques, de débats, etc. Parce que vraiment, il y en a beaucoup. J'essaie de les classer en fonction de quelques thèmes qui me paraissaient intéressants. Et alors, les regrets, quand même, un peu, c'est j'ai trouvé qu'il manque un peu d'économie. Les aspects économiques, même s'ils sont un peu distillés dans l'ouvrage. Et puis surtout, la responsabilité des populations africaines dans ce qui leur arrive. Tu viens de parler de l'esclavage arabe, mais pourquoi la France devait-elle condamner ? Pourquoi les Africains ne devraient-ils pas eux-mêmes déclencher un mouvement vis-à-vis des pays arabes pour leur demander de... etc., etc. Pourquoi la France le fait à la place de l'Afrique ? Voilà, par exemple, les questions de responsabilisation des populations africaines, du talibé jusqu'au corrompu. Pourquoi attendre du chef de l'État de l'argent ? Mais c'est l'argent public, pourquoi lui demander ? Alors, beaucoup de choses sur les populations africaines, sur leurs responsabilités qui n'ont pas, à mon avis, été abordées. Mais ton mérite, c'est d'avoir posé vraiment beaucoup de choses et ton ouvrage qui va susciter beaucoup de débats en dehors de ceux que j'ouvre en ce moment. Merci beaucoup.
Merci à toi, Badou. Hein. Merci.